La convention annuelle Anacofi, jeudi 28 mars 2024, au Carrousel du Louvre, sur Radio Patrimoine.
Et pour terminer cette journée que vous avez suivie avec nous sur Radio Patrimoine, cette convention de l'Anacofi, 20e du nom, eh bien, on reçoit Pierre Sabatier. Bonjour Pierre.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être là pour fermer cette première journée que j'ai passée sur Radio Patrimoine et je suis ravi
de vous accueillir.
Ouais, merci. Le président de PrimeView est président aussi de l'OREP et on va essayer d'utiliser et de faire rimer ces deux casquettes finalement, Pierre. D'abord, peut-être le regard PrimeView, le regard de l'économiste que vous êtes sur le contexte actuel. On entend énormément de choses. On a de l'IMO qui tire un peu la tronche. Mmh. On a une bourse qui fait des bons.
Oui.
On a des banques centrales qui nous promettent des lendemains qui chantent. Qu'est-ce qu'il faut penser de notre contexte ?
Alors c'est un vrai sujet, surtout quand on fait de la gestion de patrimoine et qu'on parle patrimoine, c'est évidemment, l'objectif c'est toujours d'être adapté aux besoins du client, mais le besoin du client, on y répond différemment en fonction du contexte. Et c'est vrai, Cédric, qu'aujourd'hui le contexte, il est incertain, il est trouble, il est complexe. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, il est complexe tout simplement parce qu'on a une forme de dissonance entre une économie réelle qui était en train de ralentir, quel que soit en fait l'endroit du monde où on se situe d'ailleurs. Hein, c'est la caractéristique du monde actuel. On a toutes les économies en fait qui ralentissent. Alors certains diront que les États-Unis ralentissent, ne ralentissent pas. La réalité, c'est que beaucoup d'indicateurs avancés aujourd'hui nous disent qu'elle est en train de ralentir. Simplement, elle met un peu plus de temps que les autres en fait à ralentir. Aujourd'hui, donc, on a un contexte d'économie réelle où on a du ralentissement. Et le ralentissement, il se traduit par quoi ? Par des taux de défaut qui sont en train d'augmenter, des faillites qui sont en train d'augmenter. Et c'est le monde dans lequel on vit. Et les gens en sont relativement bien conscients. Hein, donc, les difficultés de nos économies actuelles, la prise de conscience, elle est déjà là par les populations. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les marchés financiers, pour certaines parties en fait, de la côte, nous disent autre chose. C'est-à-dire que jour après jour, en fait, on vous publie en une des indices actions, hein, alors que ce sont des actifs risqués par définition, par essence, qui battent ou qui volent de record en record, et on parle bien de record historique. Et donc, il y a une forme de paradoxe aujourd'hui, et c'est le monde dans lequel en fait, on vit, dans lequel il va falloir prendre des décisions patrimoniales et c'est fort. Est-il temps de finalement prendre le train en marche d'actifs risqués, de marchés actions qui sont au top du top, hein, d'un point de vue historique, en dépit du contexte, c'est-à-dire est-ce que le contexte va finalement s'améliorer sans qu'on ait eu à subir en fait d'à-coup pour continuer en fait son inexorable ascension, ou au contraire les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est ce paradoxe entre des marchés financiers bien orientés et une économie réelle va s'éteindre, mais il va s'éteindre parce que les marchés financiers vont finir par réatterrir avec des pieds sur terre qui les amènent en fait à revenir à des niveaux plus raisonnables. Donc aujourd'hui on a en fait cette forme de paradoxe qui met beaucoup de gens mal à l'aise.
Mais est-ce que finalement, parce que au centre de toutes les préoccupations du moment, il y a ces banques centrales, encore et toujours. Hein. On nous a promis maintes et maintes fois que ça y est, on n'allait plus faire attention aux banques centrales. En fait, elles ont continué à driver cette économie. Évidemment. Aujourd'hui, maintenant, on attend la baisse. Est-ce que si elles baissent, comme c'est attendu, ça ne va pas rajouter, je sais plus s'il faut dire une deuxième, une troisième, une quatrième jambe de hausse, enfin voilà.
Alors, si...
Est-ce qu'on n'arrivera pas à une forme d'exubérance irrationnelle pour reprendre les propos d'un grand banquier central ?
Oui, évidemment, qui commence à dater, mais nous vieillissons tout le monde est frappé par les mêmes mots, à savoir le temps qui passe. J'ai presque envie de dire, est-ce que l'exubérance irrationnelle n'est pas déjà là ? Cédric, j'ai presque envie de dire, elle est déjà là, et d'ailleurs on l'a un peu qualifiée. Non, alors à la question, est-ce que ce sont les banques centrales qui pilotent ? J'ai presque envie de dire qu'on enfonce une porte ouverte. C'est toujours une banque centrale qui pilote. Parce qu'en fait, l'arme qui permet en fait de faire avancer ou faire reculer une économie, c'est toujours celle du niveau de taux d'intérêt. Et donc, il faut avoir en tête que le taux d'intérêt, c'est toujours le carburant de l'économie. Tout à l'heure, vous parliez en fait d'immobilier. J'en dirai un mot, mais tout ce qu'on vit dans le monde de l'immobilier était prévisible, en fait, tout simplement parce qu'il est très alimenté par le carburant de toute économie qui s'appelle les taux d'intérêt. Donc, il est évident que la banque centrale et toutes les banques centrales ont appuyé des deux pieds sur le frein au cours des deux dernières années en montant très violemment, hein, avec une ampleur et surtout une vitesse inédite depuis maintenant quelques décennies pour faire ralentir la machine. La machine finit par ralentir, c'est logique. Sauf que la difficulté, et je reviens en fait, je finis par répondre à votre question, sinon vous allez dire que je suis bavard. Tout ça pour dire que Après, la problématique en fait du pilote dans le véhicule, c'est que lorsqu'il appuie les deux pieds sur le frein, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour le véhicule, pour que le véhicule commence à ralentir. Et donc, en fait, il faut 12 à 18 mois, un an et demi pour sentir les premiers effets. Eh bien, ce qui marche dans un sens marche aussi dans l'autre. Il aura fallu du temps pour que nos économies ralentissent et finalement répondent à la volonté de notre pilote principal qui s'appelle le banquier central. Il faudra aussi du temps pour réinjecter du carburant et que ce carburant qu'on réinjecte à travers la baisse des taux finisse par faire repartir la machine. Donc, à tous ceux qui disent cette fois, c'est différent. Mais vous savez, hein, vous avez un peu d'expérience dans le domaine. On vous répète toujours la même chose. Hein. Et à chaque cycle, on vous dit cette fois, c'est différent, jusqu'au moment où finalement la réalité nous rattrape. Très clairement, même si les banques centrales baissaient les taux tout de suite, il faudra attendre un peu de temps, une petite année, on va dire, avant d'en voir complètement en fait les premiers effets.
Ça m'amène à cette deuxième casquette que j'évoquais quand même, Pierre. C'est-à-dire que aujourd'hui, les acteurs de marché. Alors par exemple nos marchés financiers là c'est plus que certains, ils ont quasiment pas connu une autre période que celle qu'on vient de connaître, de taux quasiment zéro, de non-inflation, voilà. Et puis maintenant ils connaissent tout à fait l'inverse. Dans la gestion de patrimoine c'est peut-être un peu moins vrai parce que la pyramide des âges fait que on a peut-être plus de gens qui ont connu d'autres phases, encore que ça veut dire que tous ces changements il nécessite d'être hyper affûté, hyper formé. Et là, le REP, le besoin de formation initiale et ou permanente, il est prégnant.
Alors, deux éléments de réflexion par rapport à ça. Pourquoi la formation, aujourd'hui, est un élément vital pour le gestionnaire de patrimoine? C'est parce que déjà, et ça vous l'évoquiez, le contexte fait que le monde a changé, la manière dont on pratiquait la gestion de patrimoine jusqu'à maintenant va évoluer. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire, OREP ? Ça veut dire Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine. Notre engagement vis-à-vis en fait, des gens qui viennent se former pour nous, près de 600 personnes par an sur des formations annuelles, hein. On parle de formation continue, pas de formation initiale. Notre engagement, c'est quoi ? C'est prendre le temps de continuer à chercher la manière dont on fera de la gestion de patrimoine demain. Plus que former les gens à la pratique du jour, c'est en fait leur permettre de garder un temps d'avance, que ça soit en fait dans la compréhension du contexte et la manière dont on va y répondre pour répondre aux besoins du client, ou à la manière ou les modes de détention, c'est-à-dire le contenant, c'est ce qu'on appelle le contenant chez nous, à savoir quelles sont les modalités de détention qui vont optimiser la jouissance de la détention du patrimoine par rapport en fait au client final. Eh bien tout ça en fait, notre métier, c'est de continuer à chercher pour dessiner la manière dont on va faire de la gestion de patrimoine demain. Et après derrière, lorsqu'on vous dit ça, essayons de nous projeter un petit peu. Qu'est-ce que le gestionnaire de patrimoine demain ? C'est quelqu'un qui pratique un métier de quasi-utilité publique. Dans un monde qui vieillit, et ça on l'a déjà évoqué ensemble par le passé, dans un monde qui vieillit, la question en fait du patrimoine et de la transmission du patrimoine va devoir être complétée par celle du complément de revenu. C'est-à-dire qu'il va falloir doter en fait le patrimoine d'une nouvelle finalement mission, alors que pendant très longtemps on n'en a pas eu besoin, à travers une forme de paupérisation via les systèmes de retraite qui est déjà écrite à travers le vieillissement de la population et l'explosion en fait de seniors demain. Eh bien la notion patrimoniale et de l'usage du patrimoine va devoir évoluer. C'est à nous aussi d'accompagner les gestionnaires.
Et le fait qu'on transmet aussi de plus en plus tard.
On transmet plus tard, mais donc il va falloir en fait doter le patrimoine de deux missions, celle évidemment de la transmission, parce que transmettre son patrimoine c'est un peu se transcender, c'est rester là, c'est rester présent, c'est un moteur en fait dans la vie, mais attention à ne pas léguer un passif à ses enfants, ça va être ça aussi le sujet. Donc la notion même de complément de revenu pour maintenir son niveau de vie et son niveau de jouissance jusqu'à la fin de ses jours va devoir être appréhendée de plus en plus. Donc vous comprenez que d'une certaine manière, le métier même de gestionnaire de patrimoine, les gens pourront pas le faire tout seuls. On regarde la complexité du monde dans lequel on vit et des outils qu'on a à disposition ne pourront pas le faire tout seuls.
D'autant que la formation, on va dire économique initiale et le goût de
malheureusement
de nos Français en tout cas pour
aujourd'hui assez faible, mais j'ai bon espoir que Radio Patrimoine contribue en fait à l'améliorer. Mais effectivement, c'est un
vous
travail.
Vous savez ma conviction.
Voilà, mais c'est un travail de longue haleine. Mais tout ça, donc c'est un métier d'utilité publique. Et donc la perception en fait du gestionnaire de patrimoine demain, ça va être de plus en plus l'architecte du patrimoine qui, comme un architecte, va finalement poser les fondations qui seront adaptées en fait aux besoins de son client, mais va aussi être en capacité de choisir les partenaires qui vont venir intervenir avec les meilleurs matériaux et finalement les meilleures expertises pour finalement fabriquer en fait la maison qui sera parfaite pour le client. Et bien c'est pareil dans le monde patrimonial et c'est ça notre enjeu, c'est que les CGP de demain soient de plus en plus des architectes du patrimoine. Et je vais même plus loin dans les modalités économiques associées, ça veut dire qu'à terme plus un CGP demain sera perçu comme un architecte du patrimoine, plus il pourra aussi facturer directement des honoraires pour la mission qui est la sienne. Car j'aime bien prendre l'exemple du coup dans l'immobilier. Personne, en fait, ne demande à l'architecte, lorsqu'on veut construire sa maison, d'être payé par le plombier ou l'électricien. Eh bien, d'une certaine manière, en renforçant les compétences du CGP demain, en lui donnant ce temps d'avance qui lui permet justement de bien structurer le patrimoine en tant qu'architecte, dessin des fondations, choix des prestataires, pour avoir en fait quelque chose de béton, mais concrètement, là, on va renforcer sa capacité et la plus-value perçue aussi par le client final. C'est la mission aujourd'hui de l'OREP à travers aujourd'hui 6 formations certifiantes, donc qui permettent à la fois de se doter des capacités minimum pour exercer le métier de gestionnaire de patrimoine tel qu'on le perçoit, et ensuite se spécialiser pour garder un temps d'avance permettre en fait d'être valorisé en fait à sa juste valeur.
Merci Pierre.
Merci
Pierre
Cédric.
Pierre Sabatier, donc président de PrimeView et de l'OREP, donc sur Radio Patrimoine, pour clore cette journée consacrée à la 20e convention et assemblée générale de l'Anacofi. J'ai été ravi de vous accompagner. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette journée et à très vite.
La convention annuelle Anacofi, jeudi 28 mars 2024, au Carrousel du Louvre sur Radio Patrimoine.